Dutrisac.
S'il y en a un dont la sagesse n'est pas encore arrivée avec le temps, c'est bien lui. Toujours aussi mordant que les premiers temps, Benoît Dutrisac.
M. Martineau, faites-vous pas mal là, en sortant du studio. Enfargez-vous pas d'un fil, M. Martineau. Vous allez vous casser une hanche. Bon, parlons de choses sérieuses. Avec Nicole Gibault, juge à la retraite. Nicole, bonjour.
Bonjour, Benoît.
Qu'est-ce qui arrive avec Robert Miller, M. Pepsodent? T'sais, sa photo fait peur, hein?
Oui, bien, c'est vrai que ça a l'air de M. Pepsodent, c'est quelque chose. Écoute, ouais, ben, je ne suis pas sûr que c'est une photo du jour, là.
Non.
Je pense qu'il y a un petit peu plus de rides et peut-être moins blanc les dents. En tout cas, aucune idée. C'est pas de ça. C'est pas son physique vraiment qui m'intéressait. C'est beaucoup plus. Toute cette histoire, parce qu'on sait qu'en 2009, alors pour ceux et celles là, qui veulent se remémorer, c'est notre, je dirais que c'est probablement notre Epstein national. C'est un peu comme ça qu'on le décrivait. Là. Alors, on allègue que cette personne-là avait un réseau de jeunes filles qui participaient évidemment à des activités sexuelles pour lui, qui étaient bel et bien choisies par des groupes, par des gens autour de lui. Tu sais, c'était toute une organisation pour plaire à M. Miller, qui est très, 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 très riche. Là. Il n'a même pas assez de très dans le très riche. Là. Mmh. Alors, et oui, il y a une enquête de la police. Ça n'a pas débouché à rien. Mais là, tu sais, il y a des tonnes de femmes qui ont décidé de lever le drapeau puis de dire non, écoutez, ça n'a pas de bon sens. Oui, on est encore en enquête. Et je lisais un article dans le Journal de Montréal aujourd'hui qui disait que ben, qu'est-ce qui arrive avec cette enquête-là? On peut-tu en entendre parler? Parce que oui, au niveau civil, on en entend parler et c'est de ça qu'on va jaser quelques minutes. On entend parler des poursuites civiles de ces femmes-là, ou de quelques-unes de ces femmes-là. Mais au niveau criminel, on a clairement annoncé qu'on ouvrait l'enquête. Il y a une tonne de dames qui ont témoigné, ou j'imagine qui ont donné leur version, et on n'entend plus. Ça fait je ne sais pas combien de temps qu'on n'entend pas parler du dossier criminel. Et ni par le DPCP, mais je comprends qu'ils n'annoncent pas leur couleur d'avance, mais ni par la police la SPVM, qui peut-être n'ont pas terminé leur enquête, mais à un moment donné, là, une vingtaine, trentaine, quarantaine de dames, ils doivent avoir un peu matière à quelque chose, ou bien d'évacuer, de dire non, il n'y a rien, ou oui, mais c'est compliqué parce que potentiellement, mais on n'a rien, on n'a pas d'explication au niveau criminel. Hâte de voir si ça va débloquer au niveau criminel, évidemment. Mais au niveau civil, oui, il y a des actions à recours collectif, etc., mais il y a une dame. C'est ça de quoi on va discuter aujourd'hui. Il y a une dame qui, à l'époque, était une des préférées, une des femmes, des jeunes filles qui dit avoir des relations avec Robert Miller, ce milliardaire. Mais évidemment, lorsque l'enquête est sortie, que ça a fait beaucoup de bruit, ben, elle s'est fait appeler beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et surtout par les gens, par Radio-Canada qui faisaient l'enquête pour voir. Puis elle ne voulait pas nécessairement participer. Elle s'est fait appeler par le clan Miller, beaucoup aussi. Et elle s'est fait beaucoup déposer de l'argent dans son compte de banque, là, par des virements. Plusieurs milliers. On parle peut-être au début d'une quarantaine de mille piastres. Au début de tout ça, elle dit qu'elle en avait besoin. Il l'a beaucoup aidé. Puis bon, elle était. Mais par la suite, on lui aurait demandé de signer ce qu'on appelle une quittance, on sait ce que c'est une quittance, hein, pour renoncer à tous ses recours financiers, pas d'autres genres de recours. Il faut faire attention, on n'a pas acheté un dossier et son silence au criminel. Il faut faire bien attention, ce n'était pas le cas. Et ça, ça a été exposé devant le tribunal cette semaine. Pourquoi? Parce que le document, puis ça, je trouve ça presque absurde, Un avocat aurait préparé ce qu'on appelle une quittance pour lui remettre une enveloppe de 50 000 $. On lui a remis l'enveloppe, mais elle voulait y penser un peu, puis elle voulait regarder ses choses, puis elle voulait aller consulter, etc. À partir que le 50 000, là, elle n'a pas signé le document de quittance, mais elle a tout compris. Oui, oui, je comprends, je veux juste réfléchir, etc. Et ça me surprend beaucoup qu'on a plaidé que cette quittance était valable, même si elle n'a pas été signée, parce que c'était son intention de mettre fin à ce litige-là au niveau financier avec les 50 000. Décision de la Cour supérieure, nettement, va aller en appel, là, parce que je suis un peu renversée de voir qu'une quittance non signée, on a présumé des intentions, parce qu'on peut toujours, à mon avis, encore en 2024, changer d'idée. Mais pourquoi on va laisser partir le 50 000 piastres? Je veux dire, un avocat, ça aussi, mais tu sais, on n'était pas au cœur des discussions de cette requête-là, mais le juge a dit non, il y a quittance, donc c'est fini, vous ne pouvez pas poursuivre. Elle avait une poursuite de 8 millions. Mais il faut dire qu'entre le 50 000 $ qu'elle a eu dans l'enveloppe, elle a rappelé pour dire non, moi je pense que j'ai vu les autres là, qui sont dans des recours collectifs, etc. Là, puis il y a beaucoup, beaucoup plus d'argent que ça.
Ouais.
Je pense que non, je vais demander plus d'argent.
Là, mais excuse-moi, Nicole, mais la quittance, là, c'est pas un aveu d'avoir commis, je dirais pas un crime, là, mais c'est rien?
Non. Non, une quittance, pour en avoir préparé souvent dans ma vie, c'est on accepte de, c'est pas on accepte une responsabilité criminelle ou quoi que ce soit, on veut acheter la paix entre les parties sans admettre la responsabilité. C'est des mots clés. On veut acheter la paix sans admettre la responsabilité et ça fait l'affaire des deux parties. Mais on verra pas une quittance. Si on voit une quittance où on admet un acte criminel, ils vont déposer des accusations criminelles, c'est évident. Ouais. Mais ici, c'était pour acheter la paix dans les circonstances. Mais le juge a dit que c'était final. Le 8 millions, on peut plus poursuivre. Ils vont aller en appel, j'en suis convaincue.
Ouais.
Et les autres vont pouvoir continuer leur recours, mais on attend toujours ce qui arrive au niveau criminel. Puis j'ajoute, En terminant là-dessus, dans cette quittance-là, il y avait effectivement l'exclusion. Vous pourrez parler aux médias, vous pourrez raconter votre histoire, si vous voulez, et on ne vous empêche pas du tout de faire un dévoilement à la police, parce qu'ils n'ont pas le droit non plus, là. On ne vous empêche pas, mais au niveau civil, pécunier, financièrement, acceptez le 50 000, mais vous ne pourrez plus jamais demander 100, 100 000, 8 millions. Alors, voilà où on en est, on attend.
Les enquêtes là, compliquées, de toute évidence, là, c'est long, puis on perd confiance en la justice. Une autre enquête, hein, le cas de la garderie de Laval, là, la femme de Pierre-Ny Saint-Amand a témoigné.
Oui. Ça, c'est ce qu'on appelle l'enquête préliminaire là, pour quelqu'un qui n'est pas dans le milieu juridique. Tu as la comparution, évidemment. L'enquête préliminaire, c'est une étape qui doit se faire devant le tribunal pour voir s'il y a matière à citer à procès d'après la preuve de la couronne qui a été évidemment dévoilée à l'enquête préliminaire. Cette preuve, est-ce qu'elle est suffisante pour appuyer chacun des chefs d'accusation? Et là, on va comprendre pourquoi je vais là. Parce que c'est ça le but de l'enquête préliminaire. C'est pas de savoir s'il est coupable, s'il est pas coupable, s'il est ci, s'il est ça. C'est tout simplement pour savoir si, parce qu'en ce moment, il fait face à deux chefs de meurtre prémédité, un chef de tentative de meurtre, deux voies de fait graves et quatre voies de fait lésions corporelles. Ça se termine, c'est terminé. Aujourd'hui, l'enquête préliminaire, la décision du juge, ça vient juste d'être annoncé, là. Ça va être à 2 h cet après-midi. Et pourquoi c'est important? Parce que lorsqu'on siège, je l'ai fait souvent siéger à l'enquête préliminaire, une enquête préliminaire, on peut, comme juge, ajouter des chefs d'accusation. C'est pas tout le monde qui sait ça.
Ah oui.
Des fois, les avocats se coupent la gorge en faisant une enquête préliminaire parce que le tribunal découvre d'autres infractions et cite à procès sur les autres infractions. Ou on peut dire non, il n'y a pas à l'enquête préliminaire assez de preuves sur ce chef d'accusation-là ou un autre. Et on évidemment, à ce moment-là, on les enlève. Et ils ne sont pas acquittés, là, absolument pas. Ils sont libérés, mais ils ne sont pas acquittés. Dans ce cas précisément, là où le bas blesse pour la couronne, puis c'est bas blesse pas pour la couronne, mais l'argument, là, c'est les deux meurtres prémédités. Et c'est ça que le juge devra décider aujourd'hui. Je ne pense pas qu'il y ait eu d'argument sur tous les autres, mais sur les meurtres prémédités. Pourquoi? Parce qu'il y a meurtre prémédité dans le code criminel, il y a meurtre deuxième degré, puis il y a homicide involontaire. Alors, on a plaidé fort en défense qu'il ne s'agit pas de meurtre prémédité. Et il y a une ordonnance de non-publication parce qu'il y aura un procès par jury, donc on ne veut pas contaminer avec la preuve. On ne sait rien de la preuve,
ouais,
mais absolument rien. Autre le fait qu'on argumente sur le meurtre prémédité parce que ça prend deux choses, préméditation et de propos délibérés. Alors, est-ce qu'on a la preuve suffisante pour un meurtre premier degré?
Mm-hmm.
C'est ce que le juge va décider à 2h cet après-midi.
Okay.
La réponse va être donnée par le juge qui siège à l'enquête préliminaire.
Très bien. Nicole Gibeault, merci. À demain.
Grand plaisir.
Salut.